Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du Canal M. Nous sommes heureux de vous y accueillir. Nous, c'est Jean-Sébastien Laliberté en régie. Bonjour Jean-Sébastien. Et à mes côtés, pour l'animation, Franceline Nieuviard.
Oui, bonjour.
Bonjour Franceline.
Bonjour
et Roger. Roger Roy, celui qui vous parle. Alors, nous sommes là pour vous proposer le Kiosque Magazine du lundi 12 janvier. Et nous sommes allés chercher des textes au rayon de la culture et de la société et nous traiterons des sujets. Lesquels sujets?
Alors, je parlerai d'abord de Serge Chapleau, caricaturiste québécois, oui, pour faire un peu écho avec ce qui s'est passé la semaine dernière en France. Mm-hmm. Ensuite, un article qui s'intitule « La maladie avec un grand A ». Bien sûr, il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Oui. Et enfin, « Affaires classées ». Pour faire le tri dans toutes nos paperasses accumulées depuis des années.
Ah, ce ne sont pas les affaires judiciaires.
Non. Ce sont nos paperasses personnelles.
Ah, bon, c'est bon. Alors, pour ma part, je vous parlerai des nouveaux racketeurs dans le sentier du silence. Je vais vous parler de deux athlètes québécoises en très grande forme physique.
Oui.
Mais pour tout de suite, je m'intéresse à une matière, un minerai. C'est l'or blanc qu'on appelle, le nouvel or blanc. C'est dans l'actualité du 15 décembre. C'est un texte qui est signé par Antoine Dion-Ortega et Pierrick Blin. Qu'ont en commun les tablettes numériques, les plus récents modèles d'avions, les cigarettes électroniques et les voitures électriques? Chacun compte un métal léger en voie de devenir la vedette du 21e siècle, le lithium. Le lithium. Une bonne nouvelle pour les pays producteurs, mais plus encore pour ceux qui le transforment, ce métal. Vous me parlez au téléphone et déjà vous dépendez d'une batterie au lithium, me dit Jaime Allais, directeur du Centre d'innovation du lithium à l'Université du Chili à Santiago. Il y a 10 ans, créer l'iPhone aurait été impensable car il n'existait aucune batterie qui puisse y être intégrée, dit l'ingénieur électricien, qui milite depuis des décennies pour la mise en valeur du lithium chilien. Par sa légèreté et sa haute capacité électrochimique, le lithium rend possible la commercialisation de batteries de plus en plus denses à un prix de plus en plus abordable. Une course à la miniaturisation qui a décuplé la demande de ce métal alcalin qu'on extrait de la saumure, en Amérique du Sud par exemple, ou de roche, comme on envisage de le faire au Québec notamment. Pas étonnant que la vaste région aride située à la jonction du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie ait été baptisée le triangle du lithium par nombre de politiciens et de médias du monde. C'est là que sont concentrés les lacs les plus riches en lithium de la planète, les Salares. Ils recèlent près de 40 % des ressources mondiales de lithium selon le U.S. Geological Survey. Après 7 années à améliorer son processus d'extraction, une compagnie chilienne, ADY Resources, a sorti en 2012 ses premiers sacs de carbonate de lithium. Elle prévoit construire d'ici 2017 une usine capable d'en produire 25 000 tonnes par année, ce qui en ferait l'un des premiers producteurs mondiaux. ADY Resources n'est pas la seule à pomper les Salares de la région. Des dizaines de chantiers ont vu le jour depuis 2005. Jusque-là, le lithium était surtout prisé des fabricants de verre, de céramique ou encore de lubrifiants industriels. Puis, la demande de batteries au lithium a explosé. Leur marché de moins de 12 milliards de dollars en 2012, on parle des batteries, là, pourrait dépasser les 30 milliards en 2020. En 2014, le lithium pour batteries accaparait à lui seul 27 % de l'offre mondiale. On prévoit qu'en 2025, la moitié de la production mondiale sera consacrée aux batteries. Les politiciens et les médias ont engendré un mythe autour du lithium, comme quoi il cacherait toute une industrie de fine pointe, dit Jaime Allais de Santiago. Mais c'est comme le quartz et les montres à quartz. La valeur du minerai est négligeable en comparaison de celle de la montre. C'est que le carbonate de lithium lui-même ne vaut pas grand-chose. Son potentiel économique se trouve plutôt dans sa transformation. Les clients du Chili achètent du carbonate de lithium pour en faire des composants, puis les vendent aux fabricants de cathodes, et ainsi de suite, explique Jaime Allais. Au final, le lithium représente moins de 0,5 % de la valeur de la batterie. Par exemple, dans une auto toute électrique comme la Tesla S, dont le prix de vente au Canada commence à 75 000 $, si ça vous intéresse, le carbonate de lithium représente 135 $, soit moins de 0,2 % de son prix. Au Chili, premier producteur mondial, des voix s'élèvent régulièrement pour exiger que l'État investisse afin de mettre sur pied une industrie de transformation locale. En vain, tout au plus, la présidente Michelle Bachelet a promis de mettre en place, une commission spéciale sur le lithium, selon le professeur d'économie chilien Enrique Calfuchera. Le Chili ne fera pas de batterie. À son avis, le Chili demeurera un fournisseur de ressources naturelles comme le cuivre ou le lithium. Mais est-ce que le Québec saura faire mieux que le Chili? C'est la question que posent les auteurs de l'article. Le Québec a tout pour réussir dans la filière du lithium pour batterie, assure Karim Zaïb, directeur du groupe de recherche Conversion et stockage d'énergie à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, IREQ, des ressources en lithium, de bons ingénieurs et surtout de l'électricité à bas prix, un atout que les pays andins n'ont pas. Au Québec, parce que l'électricité n'est pas chère, on peut être concurrentiel, dit-il. La solution la plus économique pour produire du lithium est encore de le faire à partir des Salares, explique Sergio Lopez, géologue consultant installé à Salta en Argentine. Par contre, les coûts de production du lithium de roche baissent, si bien que celui-ci pourrait finir par concurrencer celui des Salares. C'est ce que croit aussi la société Nemaska Lithium de Québec. L'exploitation de la mine Wabushi, près de l'aéroport de Nemisco à la baie James, lui permettrait, dès 2017, de produire de l'hydroxyde de lithium à Salaberry de Valleyfield. Cet hydroxyde serait ensuite acheminé à Candiac ou Fochtech. Lithium, société du groupe suisse Clariant, en ferait du phosphate de fer lithier, un composant de batterie pour véhicules électriques. Alors, c'est Québec, en tout cas, on verra ce que l'avenir nous enseignera. Le Québec pourra-t-il faire aussi sa marque dans le domaine du lithium, le nouvel or blanc du 21e siècle.
Alors maintenant, Serge Chapleau, Arrêt sur image, c'est écrit par Betty Achard dans la revue Le Bel Âge de décembre 2014. Notre très grand et très prolifique caricaturiste est à 68 ans, toujours au sommet de son art. Quotidiennement et abondamment nourri par l'actualité politique nationale et internationale, Serge Chapleau dessine la vérité. Enflée, bien sûr, mais toute la vérité. Et tant pis pour ceux qui ne la supportent pas. Comme la plupart d'entre nous, je connaissais le travail de Serge Chapleau et je pouvais facilement identifier l'homme, l'ayant maintes fois entendu à la radio et vu à la télévision. Mais je dois avouer qu'en sa présence, j'ai été plutôt impressionnée. Quelle prestance, 6 pieds 3, même s'il dit s'être quelque peu tassé. Une crinière blanche que bien de ses pairs doivent lui envier. Une voix profonde et envers l'entrevue, un air vraiment sérieux, voire soucieux. Serge Chapleau est un homme très occupé. Ses caricatures quotidiennes pour la presse, ses animations à la presse plus, son vieux tapon de Gérard D. Laflaque à Radio-Canada, et comme tous les ans s'y ajoute la sortie de son livre « Chapleau 2014 », son 22e. C'est en effet beaucoup de travail pour un seul homme. Il était entendu que nous parlerions de son enfance. Serge Chapleau s'est gentiment prêté à la confidence. Il était le benjamin d'une famille de 7 garçons, dont l'un, Jean-Paul, est décédé à l'âge de 8 ans. Cette perte et la douleur incommensurable qui l'a accompagnée, la maman les a portées toute sa vie et sans doute ont-elles pesé sur l'ensemble de la fratrie. J'ai eu une enfance et une adolescence dures, sans chaleur. Étant arrivé 6 ans après le dernier de mes frères, autant dire que j'ai été une erreur de parcours, dit-il. Confronté à l'inattendu, les parents auraient bien évidemment souhaité avoir une fille, d'où mon esprit un peu féminin, dit-il encore. Rien n'était facile dans le 4,5 de la rue Drolet à Montréal. À la présence de parents et des garçons s'ajoutait, comme c'était souvent le cas à l'époque, celle des grands-parents, et souvent même celle d'une cousine venue pour aider. Alors, ceci expliquant cela, on peut comprendre, d'une part, qu'une petite volée se soit donnée de temps en temps, papa Chapleau avait la main leste, et d'autre part, que la maman ne se soit pas montrée très fine. Personne n'a attaché mon foulard autour de mon cou quand je partais pour l'école, dit-il. Par contre, les gars étaient et sont encore très proches les uns des autres. Mes frères me protégeaient contre toute attaque extérieure. Mais par ailleurs, Serge était également le souffre-douleur, comme il était le plus petit. Ses frères devaient le traîner partout et s'amuser à lui faire croire tout et n'importe quoi. L'école primaire a été plutôt banale, une anecdote drôle avec le recul. Le maître avait imposé aux enfants de dessiner un ciel avec des dégradés de bleu. Serge a décidé de le lui faire, son ciel, mais il l'a accompagné d'un paysage marin. Il s'est fait vertement semoncer. Il faut dire que j'étais meilleur que l'instituteur. Le secondaire n'a pas... Le secondaire n'a pas été plus drôle pour le grand efflanqué de 135 livres que son timpal obligé à se protéger du soleil. Heureusement, mon habileté en dessin m'a sauvé. Puis ce furent les Beaux-Arts où le miracle s'est accompli. Dans ce nouveau milieu, Serge fait désormais partie des meilleurs et du coup, l'estime de soi en ressort revigorée. Je découvrais le monde, pas juste la rue de Relais. Je côtoyais des gens flyés, des artistes, des filles. Ce furent 4 années de bien-être et d'équilibre, au bout desquelles Serge sortit avec un diplôme en communication, art graphique, typo, photo. En 1971, le jeune homme au sens de l'observation aiguisée a déjà bien taillé ses crayons, inspiré qu'il est par le magazine français Pilote notamment. Ce genre de grande gueule qu'on y présentait, je me suis dit que moi aussi, je pouvais en faire. C'est ainsi qu'a débuté la belle et longue carrière de notre caricaturiste. Gilles Vigneault a été son premier client, publié dans les pages de Perspective, alors dirigé par M. Gascon, qui a immédiatement détecté un talent rare. Le succès fut donc immédiat. Je prenais avec bonheur tout ce qui m'arrivait. J'entendais parler de mes dessins, j'étais content, même si certains caricaturistes au style différent du mien n'étaient pas persuadés de mon talent. Mais lui a décidé que mieux valait tabler dans la vie sur le positif. J'ai été chanceux. Sous ses airs imposants, Serge Chaplot est un grand sensible. Il en convient d'ailleurs. Mais alors, on peut être sensible et méchant en même temps ? Attention, ne pas confondre méchanceté gratuite, acuité de l'observation et sens de la dérision. Le caricaturiste serait détesté par 30% de ses lecteurs, dont certains vont jusqu'à le traiter de maudit chien sale et autres douceurs du genre. Mais cela signifie donc que 70% l'aiment. Alors, à propos des premiers, le jugement tombe. À mon âge, je ne veux plus gaspiller de mine dans mon crayon. Justement, parlons-en de cet âge. Par le plus grand des hasards, arrive-t-il à Serge Chaplot de songer à la retraite ? C'est sûr qu'à 68 ans, le corps envoie certains signaux. Mais le véritable choc, c'est dans la perception des autres. Ainsi, le « bonjour monsieur » ne fait pas particulièrement son affaire, surtout quand il émane de jolies femmes. À propos des femmes, précisément, et de la caricature, l'artiste est affirmatif. Elles sont plus difficiles à caricaturer que les hommes. Comme, selon lui, elles s'évertuent au quotidien à être les plus belles et à masquer le plus possible leurs défauts, elles n'aiment pas du tout que ceux-ci soient mis en avant. Si je touche au bon endroit, elles se sentent tout de suite insultées. Quant à moi, dit l'auteur de cet article, je ne détesterais pas être caricaturé par le plus grand spécialiste du genre au Québec. Mais apparemment, ce ne sera pas aujourd'hui, car le temps passe à la vitesse grand V et ses obligations appellent notre homme à la presse. Alors voilà, c'était un portrait de Serge Chaplot, écrit par Betty Achard dans Le Bel Âge de décembre 2014.
Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie pour toi, liberté.
Je suis Charlie et libre, comme on l'a clamé très fort hier. La Reader's Digest du 2 janvier nous fait connaître, dans des textes distincts, deux Québécoises en grande forme. L'une prend les moyens pour se tenir en bonne condition physique et veut aider les autres à faire de même, c'est Lisanne Goyer du CHUM. L'autre Québécoise est une athlète d'élite. Il s'agit de Camille Leblanc-Bazinet. Elle est championne du monde de CrossFit. Le CrossFit, c'est une discipline qui combine des courses d'endurance, des épreuves de gymnastique et d'haltérophilie. C'est Chloé Burge qui nous la présente. Pour être la meilleure, il faut s'entraîner comme une championne. C'est le mantra que se répétait Camille Leblanc-Bazinet, athlète de CrossFit, alors qu'elle s'entraînait en prévision des Reebok, CrossFit Games à Carson, en Californie, en juillet 2014. Originaire du Richelieu, au Québec, l'athlète de 26 ans a remporté l'or chez les femmes, ce qui lui a valu le titre de femme la plus en forme de la planète. Ce n'est pas rien. Cette étudiante en génie chimique à l'Université de Sherbrooke parvient à s'entraîner 5 ou 6 jours par semaine, en moyenne 4 heures par jour. La discipline est primordiale, dit-elle, il faut réussir à faire ce dont les autres sont incapables. Outre la joie que lui procure ce titre, elle constate avec fierté que ce nouveau sport change la perception de la forme physique des femmes. « Nous voulons que les gens nous voient fortes et indépendantes », confie-t-elle. « Le CrossFit donne confiance aux femmes, car elles ont le sentiment de pouvoir se protéger et relever n'importe quel défi. » Camille Leblanc-Bassinet avoue que, si elle a longtemps consacré son énergie à rester mince, aujourd'hui, elle vise la meilleure condition physique possible. La performance prime tout, en particulier les critères esthétiques. L'athlète espère conserver son titre l'an prochain et vise maintenant les épreuves d'haltérophilie aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Tout laisse croire que cette femme est partie pour gagner. Alors, c'est Camille Leblanc-Bazinet que nous présentait Chloé Burge. Autre texte dans le Reader's Digest toujours, celui-là, il est signé par Sarah Champagne. Le titre, c'est « Un pas à la fois ». Lisanne Goyer n'a pas toujours été passionnée par la course à pied. Elle s'est pourtant retrouvée à 5184 mètres d'altitude au Népal pour devenir la première Québécoise à courir le marathon de l'Everest. Chef du service de psychologie au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, et conférencière, elle s'est donnée pour mission de sensibiliser à l'importance d'adopter de saines habitudes de vie. Portée par le souffle de la persévérance, sa méthode des 3 petits pas vise à atteindre une meilleure santé globale, chacun à son rythme. Voici des pistes pour ne pas encore, laisser tomber vos bonnes résolutions du nouvel an. Question que lui a posée Sarah Champagne. Le temps des fêtes à peine terminé, on pense déjà au régime amaigrissant et à l'entraînement. Pourtant, peu de nous passeront à l'action. Sommes-nous condamnés à échouer? Réponse de Lisanne Goyer. Pas du tout. Si nos résolutions sont réalistes, elles peuvent être tenues. Il faut les choisir en fonction de notre personnalité. Une patiente me promettait de courir 3 fois par semaine tôt le matin vers 5 heures. Je lui ai dit « Tu n'aimes pas te lever tôt ni courir et 3 fois par semaine, c'est trop pour commencer. Il faut choisir des activités qu'on a vraiment envie de faire et pour y parvenir, il vaut mieux les inclure petit à petit. » Justement, en quoi consiste la méthode des trois petits pas? Les changements radicaux ne tiennent pas la route et peuvent même aggraver notre état de santé à long terme. Mon approche consiste plutôt à faire trois petits pas par jour, tout simplement. Un pas en alimentation, un en activité physique et un autre en bien-être psychologique. Ces trois étapes sont importantes pour une meilleure santé globale. Comment choisir les trois petits pas en fonction de nos résolutions? Quand on se lève un matin de janvier avec 10 kilos à perdre, il faut adapter la méthode à soi. Par exemple, un petit pas en alimentation peut être de surveiller ses portions ou d'inclure des légumes verts dans l'assiette, et ce, en plus grande quantité que les féculents ou les glucides. On peut également résister à un aliment, un muffin à la cafétéria, par exemple. Comme récompense, songez au repas du lendemain avec votre meilleur ami en vous disant « Demain, je vais me laisser aller. Aujourd'hui, je fais mon petit pas.
Hein? » Oui.
Pour l'activité physique, on peut choisir de marcher 15 minutes par jour, peu importe le temps qu'il fait, ou de commencer par une seule séance de course à pied par semaine. Et le petit pas pour le bien-être psychologique est-il aussi concret? C'est le même principe. Une personne qui réfléchit sans cesse aux problèmes à résoudre doit accepter qu'il n'y ait que 24 heures dans une journée. Au lieu de devenir anxieux en regardant l'horloge, on peut se répéter « J'accepte l'heure qu'il est ». Il faut aussi songer à chasser les idées noires. Au lieu de se dire « je suis mauvaise », je suggère plutôt « je donne tout ce que j'ai ». Choisir une activité pour le plaisir ou la détente constitue aussi un petit pas. Il s'agit alors d'examiner l'emploi du temps de la semaine afin d'y insérer une activité agréable. Des conseils d'une personne qui sait, je crois, de quoi elle parle. Elle s'appelle Lisanne Goyer. Ce texte est publié dans le Reader's Digest du mois de janvier, un pas à la fois.
Alors, pour faire suite à votre article, Roger, une petite brève. Si vous mangez le soir, vous engraisserez.
Ah tiens.
Est-ce vrai ou faux? En principe, c'est faux. Il n'y a pas de mécanisme qui, après une certaine heure, transforme les calories en gras, explique Simone Lemieux, nutritionniste et professeure au département des sciences des aliments et nutrition de l'Université Laval. Un peu d'exercice ne ferait toutefois pas tort si vous mangez tard. Les calories ingérées le matin sont dépensées dans la journée, ce qui n'est pas toujours le cas en soirée, explique le gastro-entérologue Michael Bouin du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. De plus, comme les Québécois soupent tôt, ils ont tendance à grignoter avant de se coucher. À défaut d'être brûlés, ces calories supplémentaires s'installent dans les réserves du corps.
Ah, mais bon ça. Bon. Alors, j'espère que c'est fondé, là. Ça semble fondé. Mais ils ajoutent bien, il faut faire un peu d'exercice aussi.
Absolument, hein, même si absolument. On... Ah, oui.
Alors, ça veut dire, si vous mangez à 9h, Jean-Sébastien, il faudrait faire un peu d'exercice vers 9h30, 10h. Bon, le salaire des maires de différentes villes dans le monde, savez-vous que le salaire du maire de Milan, qui s'appelle Giuliano Pisapia, c'est de 61 000 $ par année, 61 900. Mm-hmm. Barcelone, 143 000.
Eh oui.
Perth, en Australie, 175 000. Philadelphie, 224 000. Et à Montréal, Denis Coderre, quand même, 170 000 $.
Ouais.
Maintenant, voyez comme la politique américaine est partisane. C'est incroyable. Les Américains peuvent désormais savoir si leur savon, leurs céréales ou leur thé sont républicains ou démocrates.
Eh bien...
L'application Bipartisan détaille le pourcentage des contributions politiques faites par la direction et le personnel d'une entreprise. Les consommateurs n'ont qu'à scanner le code-barre d'un produit avec leur cellulaire pour apprendre, par exemple, que le café Starbucks et le thé Celestial Seasonings donnent surtout aux démocrates et que le savon Dawn et les céréales Cheerio préfèrent les républicains.
Uh-huh.
Si l'application est un succès, cela pourrait, entre autres, pousser les entreprises à ne plus faire de dons aux partis politiques, déplore le Washington Post.
À propos du cidre de glace, certaines règles s'imposent dans la production du cidre de glace. Au Québec, seul le froid naturel est autorisé pour concentrer les sucres de la pomme. Certains cidriculteurs utilisent un processus nommé cryo-extraction. Ils attendent que le fruit entier gèle, généralement sur l'arbre, et qu'il se déshydrate sous l'action conjuguée du vent, du froid et du soleil. Par contre, la plupart des cidriculteurs privilégient la cryoconcentration. Le jus, aussi appelé mou de la pomme, est extrait puis laissé à l'extérieur afin qu'il gèle. Certains producteurs combinent les deux méthodes. Mais peu importe le processus choisi, l'ajout d'alcool, de sucre et encore d'arômes ou de colorants artificiels n'est pas autorisé. Les cidriculteurs doivent également élaborer leurs produits à partir de pommes provenant exclusivement du Québec. Si quelques variétés sauvages entrent parfois dans l'assemblage, les McIntosh, Spartan, Empire et Cortland sont en général les plus utilisés.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, la maladie avec un grand A. Texte est écrit par Sophie Gagnon dans la revue Virage d'automne 2014. Cette maladie a volé la lucidité de mon adorable tante Céline, si chère à mon cœur. Elle a sans doute été aussi cruelle avec un ou plusieurs de vos proches, tant les cas de la maladie d'Alzheimer sont tristement courants. Quelques chiffres. 2 fois plus de femmes que d'hommes ont la maladie d'Alzheimer. En 2031, 1,4 million de Canadiens en seront atteints si rien n'est fait. On court 3 fois plus de risques de développer la maladie si un parent proche, père, mère, frère, sœur, en est atteint. Au Canada, une personne sur 20 de 65 ans et plus en souffre. Alors, à défaut de pouvoir la guérir, les chercheurs québécois tentent de détecter la maladie le plus rapidement possible, car c'est ainsi qu'ils pourront trouver ses causes et donc des remèdes pour la contrer. Ils souhaitent aussi identifier des modes de prévention qui pourraient procurer quelques précieuses années de santé cognitive de plus à ceux qui sont appelés à progresser vers la maladie. Des percées intéressantes défraient régulièrement la manchette, dont les outils de détection précis permettant de gagner jusqu'à 4 ans sur le diagnostic de la maladie. Cela nous porte à espérer la découverte imminente du remède qui permettrait de conjuguer un jour la maladie d'Alzheimer uniquement au passé. Mais la réalité est tout autre, cette maladie cachant encore trop bien ses secrets pour qu'on puisse en stopper la progression ou mieux encore la guérir. L'ennemi est si coriace qu'il est important d'unir les cerveaux pour en venir à bout. C'est pourquoi plus de 90 chercheurs et cliniciens québécois sont dorénavant regroupés au sein du consortium pour l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer Québec, CIMAQ. Ce programme recrutera 350 personnes de plus de 60 ans qui seront suivies sur plusieurs années. J'ai bon espoir qu'on fait ce qu'il faut en mettant en commun nos efforts. On va y arriver, souhaite le docteur Sylvie Belleville, co-directrice du CIMAQ et directrice de la recherche à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. On pourrait juger mineures les percées permettant de gagner du temps sur l'évolution de cette maladie dont on souhaiterait l'éradication. Or, ces découvertes procurent des bénéfices autant pour les malades que pour la recherche. Pour la science, il est essentiel de comprendre ce qui se passe dans les premiers stades de la maladie, ce qu'une détection précoce permet qu'il s'écoule environ 10 ans entre le début de la maladie et son diagnostic. On sait qu'il se produit beaucoup de changements dans le cerveau atteint. Pour trouver un éventuel remède, il faut trouver ce qui les cause afin d'agir avant qu'il y ait des pertes au cerveau, explique la neuropsychologue. Pour les personnes atteintes, ainsi que pour leurs proches, ces quelques années reniées sur le diagnostic de cette terrible maladie revêtent une énorme importance. On pourra également mesurer si, donnés plus tôt, les traitements, avec ou sans médicaments, sont plus efficaces pour ralentir l'évolution de la maladie et retarder l'apparition des symptômes. Puisqu'un diagnostic précoce est primordial, note le docteur Belleville, Il importe de consulter son médecin lorsqu'on croit que notre mémoire nous joue anormalement des tours. On se plaint tous, par exemple, d'avoir de la difficulté à retenir les noms des personnes, d'avoir des mots sur le bout de la langue. Mais tout ceci est normal. Toutefois, lorsqu'on fait un effort pour se souvenir de quelque chose et qu'on l'oublie quand même, qu'on se perd en voiture dans un secteur pourtant familier ou que nos troubles de mémoire ont un impact sur notre quotidien, on a intérêt à prendre le rendez-vous avec notre médecin. Une visite privée m'a permis d'avoir un aperçu de ce qui est le pain quotidien des chercheurs à l'IUGM, qui tente de percer les mystères de la cognition lors de l'avancée en âge, l'un des nombreux programmes de recherche menés par ce centre spécialisé dans le vieillissement et la santé des aînés. On passe d'abord une imagerie par résonance magnétique, une IRM, aux candidats qui participent au programme de recherche. Puis, pendant 7 à 8 semaines, on leur enseigne des techniques et des stratégies pour mieux mémoriser. On passe ensuite une autre IRM afin de voir si de nouveaux chemins ont été créés dans le cerveau pour trouver l'information, résume Émilie Lepage, coordonnatrice de recherche dans l'équipe de Sylvie Belleville. Ce médecin est d'ailleurs à la recherche de personnes de 55 ans et plus de la région montréalaise qui se plaignent que leur mémoire est moins bonne qu'avant. Si vous êtes intéressé de participer à cette recherche, vous pouvez prendre contact avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et pour terminer, 50% des cas de la maladie d'Alzheimer sont liés au style de vie, indique le docteur Sylvie Belleville. Pour réduire le risque d'en être atteint et pour retarder le moment où la maladie va évoluer, on a donc tout avantage à adopter un style de vie favorable au cerveau. Voici quelques règles à suivre. Stimulez votre cerveau, jouez à des jeux de chiffres et de lettres, apprenez à jouer d'un instrument de musique, suivez un cours, modifiez l'ordre de votre routine matinale par exemple. Faites de l'activité physique modérée régulièrement afin de maintenir un poids santé et de vous tenir loin des maladies qui augmentent le risque d'être atteint de la maladie d'Alzheimer. Diabète, hypertension, maladie de cœur. Cessez de fumer et consommez l'alcool modérément. Adoptez une alimentation saine et variée en consommant davantage des fruits et des légumes et en diminuant votre apport en gras. Et enfin, ayez une vie sociale active. Voilà, c'était quelques conseils, quelques éléments à propos de la recherche et de la prévention qui permet de ralentir l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Par Sophie Gagnon dans la revue Virage de l'automne 2014.
Parlant d'activité physique, la raquette, ça en est toute une. Mais on peut en faire beaucoup au Québec, de la raquette, maintenant.
Oui,
mais
oui,
on n'a plus les vieilles raquettes qu'on avait dans le temps.
Mais
il y en
babiche,
a encore.
Là,
la babiche, non, oui. Mais il y a quand même de la résistance. On veut quand même les conserver, mais oui. C'est un combat peut-être d'arrière-garde, je ne sais pas. Le texte dont je vais vous parler maintenant, je l'ai pris dans l'actualité du 15 décembre, « Le sentier du silence ». Le texte est signé par Daniel Chrétien, qui écrit « On m'avait promis des vues spectaculaires, on m'avait fait rêver d'un archipel planté au milieu du fleuve et de glace immense, dérivant au gré du courant. Je partais la tête remplie de paysages gelés dans la blancheur hivernale, j'imaginais le sentier de neige serpentant entre les sapins. Ce qu'on ne m'avait cependant pas dit, c'est qu'avant de m'émouvoir devant les beautés naturelles de Charlevoix, il me faudrait gravir le Cap Brûlé par moins 20 degrés. Raquette aux pieds et bâton en main, j'attaque la première montée, suivie de la première descente et d'une première chute. Et une fois parvenu tout en haut, le souffle court et le cœur indigné par l'effort, j'aperçois le fleuve et les 21 îles de l'archipel de l'île aux grues, 460 mètres plus bas. Le silence est à peine perturbé par le bruit sec des flots congelés qui tombent sur les feuilles séchées encore accrochées aux arbres. La paix. Au terme de cette randonnée de 4 heures, j'aurai franchi une dizaine de kilomètres sur le sentier des Caps, reliant Cap-Tourmente à Petite-Rivière-Saint-François, aux portes de Charlevoix. Cette piste de 48 kilomètres, tout en vallon, s'intègre aux 1000 kilomètres de la portion québécoise du sentier national, qui permet à ceux que les défis animent de parcourir presque entièrement le Québec de Gatineau jusqu'aux Escoumins, vers le nord-est, et de là jusqu'à la frontière du Nouveau-Brunswick vers le sud-est, alors au nord du fleuve Saint-Laurent. Des peintures rupestres, découvertes en Norvège, montrent que des hommes marchaient déjà en souliers de neige il y a 6000 ans. Mais c'est aux Indiens d'Amérique que l'on doit la raquette traditionnelle de bois et de lanière de cuir tressé, la babiche, comme disait si bien Franceline tout à l'heure. La raquette était utilisée en Amérique bien avant que Jacques Cartier, Samuel de Champlain et compagnie y débarquent. Elle a grandement facilité la colonisation de l'Amérique du Nord. Selon le consultant américain en loisirs Leisure Trends Group, la raquette est le sport qui connaît la croissance la plus importante aux États-Unis. Le Québec n'est pas en reste. En 2004, la raquette occupait le cinquième rang des activités hivernales les plus pratiquées. Selon le cabinet d'études de marché Zins Beauchesne et Associés de Montréal, 9 % des Québécois s'adonneraient à la raquette contre 5 % qui joueraient au hockey. Alors, 9 % des Québécois, c'est 675 000 personnes quand même. Depuis le milieu des années 90, la popularité des raquettes de bois et de babiche décline, alors que le nombre de raquetteurs ne cesse d'augmenter. Ces raquettes ne comptent plus que pour 10 % de nos ventes, précise Stephen Vincent, président de Raquette GV, dont l'atelier de fabrication se trouve dans le village Huron de Wendake, en banlieue de Québec. Aujourd'hui, les fabricants n'en ont que pour l'aluminium, les copolymères, l'olafine et l'hypalon, dérivés du plastique et du caoutchouc. La forme de la raquette a aussi subi des transformations. Fini les longues queues traînant dans la neige et qui obligeaient à marcher bien droit. Fini aussi l'allure de cow-boy, les jambes écartées. Les nouvelles raquettes plus étroites et plus courtes facilitent la marche, permettent de zigzaguer et accroissent la mobilité. Mais pour André-François Bourbeau, farouche défenseur de la tradition, l'équipement moderne a détourné la raquette de sa fonction première. Le plaisir de la raquette, c'est d'aller explorer des territoires vierges, dit-il. Les nouvelles raquettes, trop courtes et trop étroites, ne le permettent pas, elles calent. À son avis, elles ne sont bonnes que pour marcher sur la glace et la neige bien tassée. Porter des bottes à crampons ferait tout aussi bien l'affaire, conclut le professeur de 51 ans à la barbe grisonnante. Il est vrai que quelques jours avant notre passage sur le sentier des Caps, il avait plu, nous aurions presque pu le parcourir chaussé de simples bottes sans crampons. Mais en raquette, nous partions, alors raquette, nous portions. Pour les mordus de la tradition, Raquette GV fabrique toujours des raquettes en bois de formes variées, longues et étroites pour la randonnée, rondes pour la chasse en forêt dense, de dimensions réduites pour la course. Dans un coin de l'usine, planté au bout d'une rue glacée de Wendake, une machine tend les peaux de vache, les découpe en lanières, qui sont ensuite étirées avant d'être tressées à la main puis vernies. Mais là encore, l'irréductible professeur Bourbeau trouve que la tradition se perd. « La peau de vache? Je ne veux rien savoir de ça, lance-t-il. Elle absorbe l'humidité et finit par s'étirer. Alors de quoi devrait-on la fabriquer, Franceline? »
Je ne sais pas.
Il n'y a rien comme la peau d'orignal, grattée au froid. Ah. Elle est complètement imperméable et garde sa souplesse. Ah. L'arrivée des raquettes modernes a aussi sonné le glas des mocassins de peau qu'on chaussait jadis. Aujourd'hui, les fixations des raquettes conviennent à n'importe quelle botte d'hiver, dit Stephen Vincent. Sans compter qu'on peut faire de la raquette presque partout. Au Québec, outre les pourvoiries, 3 centres touristiques, 14 parcs nationaux et 6 réserves fauniques aménage les sentiers. En ce qui concerne ce sentier du silence là, dont je vous parle depuis quelques minutes, je dois préciser qu'il part de Gatineau. Il se rend jusqu'à Sainte-Agathe. Ensuite, il s'en va vers Shawinigan pour passer, faire un petit saut vers Québec, Baie-Saint-Paul, Saint-Siméon, Tadoussac, les Escoumins, 1000 kilomètres. Puis ensuite, si on peut prendre le traversier des Escoumins pour se rendre à Trois-Pistoles, on peut même se rendre au Nouveau-Brunswick.
C'est un beau voyage.
Oui, c'est un beau voyage. Oui, il ne faut peut-être pas dans un seul jour.
Sûrement pas. Sûrement pas.
Si les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne, cargue ta voile ou si la mienne. Fais comme si nous en étions. attirant toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond comme au large de l'île, trésor dont nous avions la clé, le plein, la carte et la belle aventure n'étaient que rêve et qu'imposture. Évoque-les, évoque-les, bord des drapeaux de pluie dans les matures. Bord des drapeaux de pluie dans les matures. Je me fais facteur ou jardinier, ne me viens plus parler de contrebande. Mais si tu veux que je me pende au grand hunier, au grand hunier, raconte-moi que tu as vu l'Irlande.
Alors, après ces voyages en raquette ou en bateau, je vais revenir à un sujet plus terre-à-terre avec un texte intitulé « Affaires classées » écrit par Rémi Leroux dans la revue « Protégez-vous » d'octobre 2014. Vos déclarations de revenus, vos factures et votre testament traînent pêle-mêle dans une boîte au sous-sol. Alors voici pour faire un petit guide pour faire le tri dans vos archives sans faire de gaffe. Tous les ans, en mars, la Sûreté du Québec organise son opération déchiquetage dans plusieurs villes du Québec. Au cours de cette journée, vous êtes invité à faire déchiqueter vos documents contenant des informations personnelles, vieux relevés bancaires, états de compte ou déclarations de revenus. En procédant ainsi, vous réduisez le risque d'être victime de différentes fraudes, comme un vol d'identité. Préparez-vous donc dès maintenant pour cette journée en faisant le tour de vos archives personnelles. Aux grands mots, les grands remèdes. Vous décidez alors de numériser tous vos documents importants avant de détruire les originaux. Mais attention, pour que le document qui a été passé au format numérique ait la même valeur juridique que le document papier original, il faut constituer un registre détaillant les paramètres du processus de reproduction, explique Vincent Gautré, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. C'est-à-dire, il faut des données à consigner sont nombreuses, comme la date, les formats, le numériseur, le logiciel, etc. Toutefois, si vous recevez des documents numériques de votre établissement bancaire, de votre fournisseur Internet ou d'une administration publique, conservez-les précieusement. Ils ont la même valeur légale que si vous les aviez reçus par la poste. Les documents numériques ont le net avantage de vous faire gagner beaucoup de place dans votre classeur. Ils peuvent être gardés sur différents supports électroniques, comme disques durs, DVD, clés USB. Pour archiver vos documents, un disque dur externe de bonne capacité est la solution la plus pratique. Il devra néanmoins être conservé dans un lieu sûr, un coffre à l'abri à l'épreuve du feu ou un coffret de sécurité à la banque. Ne reste plus qu'à déterminer quels documents vous allez conserver et pendant combien de temps. Voici notre guide pour vous aider à faire ce grand ménage.
On est tout oui.
Voilà. Alors, à conserver toute la vie. Testament et autres actes notariés. Votre notaire conserve une copie de tous les actes que vous avez signés dans votre cabinet. Testament, acte de donation de biens immobiliers, acte notarié d'hypothèque. Gardez tout de même dans vos archives un exemplaire de tous ces documents. Le carnet de vaccination et de santé. Ils vous accompagneront tout au long de votre vie, car ils contiennent les informations importantes sur votre santé, utiles en cas d'accident ou d'hospitalisation. Les actes et certificats de naissance, mariage, décès. Bien qu'il soit possible de demander des copies des documents d'état civil, ce n'est pas toujours facile de les obtenir, en particulier si vous avez déménagé ou changé de pays. Ne jetez jamais ces documents. Certaines institutions pourraient vous les demander, dont des ministères, au moment de refaire des documents d'identité. Les contrats de mariage, d'union de fait, de règlement de divorce ou de séparation. Gardez vos contrats d'union à vie ou jusqu'au jugement de divorce ou de séparation. Ces pièces pourraient être exigées lors d'un renouvellement de passeport, par exemple. Les diplômes et relevés de notes. Ces documents sont parfois requis lors d'un entretien d'embauche. Si vous les égarez, vous pourrez en demander une copie auprès des ministères concernés. Certains frais pourraient être exigés, notamment par les universités. Alors maintenant, à conserver pendant au moins 6 ans. La déclaration de revenus et pièces justificatives. Conservez les documents relatifs à vos déclarations de revenus au fédéral et au provincial des 6 dernières années, incluant les pièces justificatives pour les crédits demandés, comme les factures pour les soins médicaux ou l'achat de lunettes, par exemple. Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada ont 3 ans à compter de la date d'émission de l'avis de cotisation pour réviser votre déclaration de revenus. Mais si les autorités fiscales soupçonnent une fraude ou une activité criminelle, elles peuvent retourner en arrière aussi loin qu'il est nécessaire. Vous gardez aussi vos relevés de comptes bancaires aussi longtemps que vos déclarations de revenus. À conserver pendant au moins 3 ans. Le bail, avis de modification au bail et entente de renouvellement. Vous conservez votre bail initial et tous les documents qui le modifient ou le renouvellent 3 ans après la fin de celui-ci. Vous conservez aussi vos reçus de taxes municipales, scolaires et d'eau. Selon la loi sur la fiscalité municipale, le délai de prescription est de 3 ans pour le recouvrement des taxes. Au-delà de cette période, une municipalité ne pourra pas exiger de paiement rétroactif. 3 ans aussi, les factures d'électricité, de gaz, de mazout. Vous constatez une erreur de facturation, ben alors vous avez 3 ans pour demander un ajustement. Le fournisseur dispose lui aussi du même délai. Contrat de vente d'un terrain ou d'une maison. Dans la mesure où les lois fiscales permettent aux autorités de vérifier vos déclarations des 3 dernières années, il est préférable de conserver les documents relatifs à la vente d'un terrain ou d'une maison pendant cette période. À conserver pendant 1 an ou moins, les factures de télécommunications. En général, les fournisseurs des services résidentiels ne font pas de recommandations en ce qui concerne la conservation de leurs relevés. Vous gardez aussi 1 an ou moins les factures de réparation d'appareils électroménagers, car si le montant de la réparation dépasse 50 $, taxes et main-d'œuvre incluses, une garantie de 3 mois s'applique selon la loi sur la protection du consommateur. Gardez aussi les relevés des transactions bancaires jusqu'au moment où vous aurez vérifié que les transactions apparaissent bien sur votre compte bancaire et qu'il n'y a aucune erreur. La même chose pour les relevés des cartes de crédit. Enfin, à conserver pendant la durée de possession ou de validité, c'est le cas des contrats de location et les contrats d'assurance, les contrats d'achat d'un terrain ou d'une maison, les contrats de prêt hypothécaire, les certificats de dépôt et placement d'épargne retraite et d'obligation d'épargne, les contrats ou factures d'achat de biens, les factures et états de compte des biens et services payés avec une carte de crédit, les certificats de garantie, le passeport. Vous savez que la durée de vie d'un passeport est de 5 ans ou 10 ans selon ce que vous avez choisi. Ben voilà, c'était quelques informations pour faire le tri dans nos papiers administratifs, toutes les paperasses qui nous encombrent. C'est écrit par Rémi Leroux dans la revue Protégez-vous d'octobre 2014. Alors, une brève suite à l'article que je viens de vous lire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, c'est le mot de passe le plus courant en 2013.
mais il y en a qui se rendent jusqu'à 6.
Ah oui, c'est ça, mais c'est le pire mot de passe. Alors, pour gérer quelques conseils, pour gérer vos affaires personnelles, vous naviguez sur plusieurs sites qui exigent de vous connecter avec un mot de passe. Comment les choisir et les conserver de façon sécuritaire? D'abord, utilisez un mot de passe différent pour chacun de vos comptes importants, courriel, services bancaires ou fiscaux en ligne. Choisissez des mots de passe longs, au moins 8 caractères, comprenant des lettres, des chiffres et des symboles. Soyez imaginatif et futé. Optez par exemple pour une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles qui transforme le nom d'une connaissance ou d'une phrase significative pour vous. Par exemple, « Ah, comme la neige a neigé ».
Ah, ça c'est bien.
Lorsque l'option vous est proposée, activez la vérification en deux étapes dans les réglages de sécurité. Enfin, vous pouvez utiliser, pour vous rappeler, utiliser un logiciel de stockage des mots de passe, KeePass ou LastPass, entre autres.
Ah oui, mais il faut un mot de passe pour avoir accès au...
ça, je ne sais pas.
Non, alors... J'y vais maintenant d'une autre brève. Et il y a des écrivains ou des personnes célèbres, du moins il y en a deux que je connais, là, qui ont commencé des phrases par « il y a deux ». Il y a deux. Il y a deux choses sur lesquelles on peut compter dans la vie, ses doigts et sur un boulier. Il y a deux types d'orateurs. Ça, c'était Sam Gritner. Il y a deux types d'orateurs, les nerveux et les menteurs. Ça, c'est Mark Twain. Il y a deux raisons de lire un livre, le plaisir qu'on y trouve et la vantardise qu'on en tire. Ça, c'est Bertrand Russell. Ça, c'est un philosophe. Hein. Bon, il connaît ces choses-là. Autre brève?
Oui, j'en ai encore une autre, toujours suite à mon article sur la paperasse. Comment détruire en toute sécurité? Vous envisagez de vous débarrasser de vieux documents devenus obsolètes? Attention de choisir la bonne méthode de destruction. Pour les documents papier, la Commission d'accès à l'information du Québec, la CAI, conseille d'utiliser une déchiqueteuse à découpe transversale et d'éviter celle à coupe en lanière. Dans le cadre de documents très confidentiels, dont les documents bancaires et financiers, le déchiquetage puis l'incinération sont recommandés. Pour les médias numériques, qui peuvent être réutilisés, comme les cartes de mémoire flash, les clés USB ou disques durs de votre ordinateur, reformater et déchiqueter les données à l'aide d'un logiciel de suppression sécuritaire. Enfin, s'il s'agit de supports numériques qui ne seront plus utilisés, comme les CD ou les DVD, la CAI conseille une destruction physique, meulage de surface, déchiquetage ou perçage. De nombreuses déchiqueteuses domestiques peuvent également détruire ce type de support.
Autre dernière brève, oui, bon, les algues de l'espoir, c'est de la génétique, hein, on devient très technique là. Les cyanobactéries qui prolifèrent dans les lacs sont des championnes de la photosynthèse lorsqu'on les compare à la plupart des plantes de culture comme le maïs ou le blé. Mettre les gènes des premières dans les secondes pourrait faire bondir les rendements du blé ou du maïs de 60%, croient des chercheurs américains et britanniques. Alors, ça peut servir, ça, les algues bleues, les algues vertes, là, on en a entendu parler il y a quelques années.
Dans nos lacs.
Ah, c'était le Kiosque Magazine que nous avions vous proposé.